Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Accusé d'être à la base de la récente attaque de trois villages dans le Rutshuru au Nord Kivu, le M23 rejette ses accusations. Justement, à propos de cette nouvelle incursion attribuée au mouvement du 23 mars, nous recevons Alphonse Toumbalwaba, modérateur des pourparlers de Nairobi en 2013, qui ont abouti au retrait du M23 de la RDC. Justice. Raphaël Bukangalonzo, le conseil de Matata Ponyo, pense que son client ne doit pas être jugé par la Cour constitutionnelle puisqu'il n'est plus Premier ministre en fonction et qu'il est justiciable de la Cour de cassation. Pareil pour le conseil du gérant sud-africain de la société Africom. La Cour promet ainsi de rendre son arrêt sur ces exceptions soulevées le 15 novembre prochain. Madame, Messieurs, bonjour. Les villages de Tchanzu, Runyoni et Bikenge dans le Nord Kivu étaient occupés hier par des combattants que l'armée présente comme appartenant au M23, ce avant d'être repris par les FARDC. Cette situation est provoquée par l'attaque dans la nuit de dimanche à hier lundi par ces combattants. C'est dans le groupement Djomba, à 25 km au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Plusieurs habitants de ces agglomérations se sont déplacés vers la cité frontalière de Bunagana à la paroisse de Djomba et en Ouganda voisin, affirme des sources dans la région. Au cours d'une communication à la presse hier à Goma, le porte-parole adjoint des FARDC, tout en confirmant que cette attaque a été menée par le M23, a ajouté que les combats se poursuivaient et l'armée est déterminée à vaincre une bonne fois pour toutes la menace du M23. On écoute le général Sylvain Ekenge dans ses propos recueillis par Pele Kipela Mondo.
Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sur les sols congolais. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Cependant, dans un communiqué publié hier et signé par Bertrand Bissimois, le mouvement du M23 affirme ne pas être auteur de cette attaque. Le M23 rappelle que depuis plus d'une année, il est engagé dans les pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa et que ses délégués ont séjourné et ont eu des échanges qu'il qualifie de très fructueux avec l'administration du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Bertrand Bissimois, il est mal indiqué de croire que son mouvement puisse s'engager dans des hostilités avec les FARDC en ce moment où le partenariat avec le gouvernement congolais se porte mieux et que tous les espoirs sont encore permis. En clair, affirme le communiqué, le M23 n'est pas engagé dans quelques confrontations armées dans le territoire de Rutshuru. Cependant, ce mouvement ajoute que ses combattants stationnés dans le Rutshuru en attente de la réponse du gouvernement subissent des actes de provocation de la part de quelques éléments incontrôlés des FARDC depuis l'année 2020. Par ailleurs, de nombreuses familles ont fui la localité de Luna en Ituri vers Eringeti dans le territoire de Beni. C'est après la dernière attaque des présumés ADF, attaque qui a fait 3 morts. La société civile demande à l'armée de renforcer ses effectifs dans cette partie du pays, redoutant qu'Eringeti soit également la cible des attaques armées. Entre-temps, au sud Kivu voisin, une mission d'évaluation conjointe de la MONUSCO, composée des sections Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Affaires civiles, DDR et PIAO, est arrivée hier à Bibokoboko, dans le territoire de Fizi. Objectif, évaluer la situation humanitaire dans la région, faire la cartographie des groupes armés, identifier des cas de violation des droits de l'homme, faciliter la cohésion sociale et la possibilité de dialogue. Au total, 7189 personnes, soit 512 ménages, sont déjà retourner à Bibokoboko, sur place retrouvant Fiston Ngoma Mayabala.
Après 30 minutes de vol par l'hélicoptère de la MONUSCO au départ d'Uvira, nous atterrissons sur une piste à côté d'une base opérationnelle de la MONUSCO. Ici à Bibokoboko Centre, il y a un soleil de plomb. Plusieurs villages collinaires entourent Bibokoboko Centre où les retournés retrouvent progressivement leur élan de vie actuel il y a de cela une semaine. Dans un briefing sécuritaire reçu sur place, ça n'étire plus depuis l'arrivée des casques bleus pakistanais de la MONUSCO le 27 octobre dernier. Les soldats de la paix organisent des patrouilles à pied jusqu'à 16 km. Ils ont visité plusieurs villages encore vidés de leurs habitants autour de Bibokoboko Centre. Dimanche 7 octobre, des miliciens Maïmaï ont lancé des alertes d'attaque sur Tugenge et Mugono ainsi que sur Kakuku et Lulimba, des villages qu'on peut observer à quelques kilomètres de vol d'oiseaux depuis la colline de la MONUSCO. Aucune position des combattants Turwan et Ogumino n'est signalée à la suite de ces menaces sécuritaires. Les chefs locaux et les acteurs humanitaires approchent la MONUSCO pour échanger les informations et se réconforter. Depuis la colline de la MONUSCO à Bibokoboko Centre, Fiston Ngoma Mayabala, la radio Kapi.
Direction le Congo central. Nous apprenons que le village de Belachola s'est vidé de sa population. Les habitants ont fui dans la forêt et dorment à la belle étoile dans des conditions difficiles. Situation consécutive à l'altercation le vendredi dernier entre eux et les nouvelles recrues des FARDC en formation à la base militaire de Kitona. Le gouverneur intérimaire du Congo central et le chef d'état-major général des forces terrestres des FARDC qui ont fait le déplacement du village Belachola pour se rendre compte de la situation affirment par contre que c'est un conflit foncier entre Kitona et ce village qui est à la base de ces incidents, le récit de Nana Pluriche Mambou.
D'après Edouard Mbachi, notable du village Belechola, vendredi, les nouvelles recrues des FARDC en formation à la base militaire de Kitona ont effectué une descente punitive dans les 10 villages pour venger la mort d'une des recrues retrouvées morte dans un champ de manioc de ces villages. En prenant d'assaut les villages, ces recrues des FARDC ont tiré plusieurs coups de feu, incendié plusieurs maisons, violé des femmes et poignardé plusieurs personnes, affirme Edouard Mbachi. Ces violences ont causé la mort d'un couple dans ces villages, affirme la même source. Après s'être rendu dans ces villages, le gouverneur intérimaire a instruit les services fonciers à délimiter ces terrains. Justin Luemba a également décidé du déploiement de la police militaire dans ces villages pour les pacifier avant d'inviter les villageois à regagner leurs milliers de vies. Pour les notables de Mwanda, regagner les villages pour le moment l'air sera fatal. Edouard Mbachi.
Le village a été complètement détruit par les militaires. Les autres vraiment vivent en débandade. Les autorités nous ont dit de regagner le village. On n'a rien. Les champs de manioc ont été ravagés par les militaires. On a incendié les maisons. Comment est-ce que nous allons rentrer au village sous affamés? Nous allons vivre comme avec les enfants? Nous avons même peur de retourner au village parce que les militaires sont toujours là.
La présence de ces militaires déployés par le gouverneur intérimaire dans le village Belechola met en mal également les activités économiques dans les postes frontaliers de Lindou, dont la route qui y mène traverse ces villages. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à l'audience publique d'hier à Kinshasa dans le procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle a pris la cause en délibéré sur les préalables soulevés par les parties au procès. Ces exceptions liées à la forme se rapportent à l'incompétence de la Cour de juger Augustin Matata Ponyo en tant que Premier ministre alors qu'il ne l'est plus, ainsi que le Sud-Africain Grobler Christo dont le juge naturel serait la Cour internationale d'arbitrage. Les parties ont aussi plaidé pour l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Explication de Jeff Ngoy Mulunda.
Augustin Matata, Patrice Kitebi et le gérant sud-africain de la société Africom Grobler Christo doivent-ils être jugés par la Cour constitutionnelle ou par un autre juge? Après avoir développé 8 moyens d'exception et d'irrécevabilité tirés de la violation de la Constitution et de la loi organique de la Cour, le conseil de Matata, représenté par le professeur Raphaël Nyabirungu, pense que son client ne doit pas être jugé par cette Cour. Étant donné qu'il n'est plus Premier ministre en fonction et que la Cour n'est compétente de juger que le Premier ministre en fonction et que son client est justiciable de la Cour de cassation.
Et la preuve est fournie par le procureur général lui-même. Il ne répond à aucun moyen.
Pareil pour le conseil de Grobler Christo, représenté par Jacques Chabani.
La défense de Grobler estime que nous sommes dans le cadre d'un contrat d'investissement qui a en son sein une clause compromissoire, donc ne peut connaître des conflits du contrat Bukangalonzo que l'arbitre international, qui du reste a déjà été saisi.
La Cour promet ainsi de rendre son arrêt concernant ces exceptions soulevées le 15 novembre prochain.
La situation politique en RDC est la plus que préoccupante avec l'enterrinement de Denis Kadima à la tête de la CENI. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de préparer la fraude aux élections de 2023. C'est en tout cas ce que pense Gershom Kaebe, un Congolais vivant aux États-Unis qui affirme avoir adressé des correspondances au président américain Joe Biden, français Emmanuel Macron et au premier ministre canadien Justin Trudeau. Cela pour alerter, selon lui, ces grandes puissances sur la situation politique et l'insécurité qui prévaut dans l'est de la RDC. Gershom Kaebe explique ici sa démarche.
L'objectif, c'était tout d'abord de démontrer que la situation politique au pays est très mauvaise. J'ai démontré que déjà le gouvernement en place est en train de préparer la fraude électorale en 2023 en nommant M. Kadima, en nommant au niveau de la justice les gens de son obédience. Ça veut dire que l'élection de 2023 est déjà faite. Les résultats sont connus. Alors, j'ai voulu démontrer cela à la face du monde que M. Félix Tshisekedi est déjà en train de préparer une fraude électorale et qu'il y a un danger là-devant parce que ça va amener à des contestations et ça peut amener à des troubles. Il fallait déjà que les grandes puissances de ce monde soient au courant de cette situation. Deuxièmement, il fallait démontrer à ces grandes puissances que Beni et Ituri ont besoin d'eux parce que la population de Beni et Ituri est orpheline. Le gouvernement qui est censé protéger cette population ne fait pas son devoir.
En réaction, Maître Peter Kazadi, député provincial et cadre de l'UDPS, fustige d'abord cette démarche qui consiste, selon lui, à faire intervenir des puissances étrangères dans les affaires d'un État souverain que la RDC. Il rejette les allégations de préparation de fraude attribuées au président de la République pour les élections de 2023, car, dit-il, Denis Kadima est le choix des confessions religieuses. S'agissant de l'insécurité dans l'Est de la RDC, Maître Peter Kazadi estime que tous les moyens ont été mis en place pour pacifier cette partie du pays et que bientôt les résultats seront palpables. Maître Peter Kazadi.
En rapport d'abord avec la question de la CENI, le président de la République n'a rien à voir avec la désignation de Denis Kadima. C'est un produit des confessions religieuses qui, après plusieurs mois de tractation, la majorité a fini par adopter le nom de Kadima. Si le président de la République était dans la logique de la fraude, il pouvait se chercher quelqu'un d'autre pour ne pas réveiller toutes les soupçons que nous voyons aujourd'hui. Par rapport à la question de l'Est, aucun gouvernement ne peut abandonner son peuple. Depuis que le président de la République est là, il a déployé beaucoup de moyens pour mettre fin à cette guerre. Et moi, j'estime que les résultats sont en train de se faire ressentir. Du moment où nous entendons des voix qui s'élèvent pour protester contre l'état d'urgence instauré dans cette partie de la République, mais donne-moi la conviction que nous sommes en train de toucher les problèmes du doigt et que bientôt là, avec la prouesse de nos forces armées, nous allons devoir mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré.
C'est un dossier signé Alain Rongmouchinge. Poursuite dans ce journal de notre série des diffusions sur le processus électoral. Après l'installation de la nouvelle équipe de la CENI, tout l'enjeu de crédibilisation et de transparence du processus électoral va se jouer au niveau du Parlement au moment de l'examen et du vote de la proposition de loi électorale dite la loi Lokondo. À en croire l'un des membres du groupe de 13 députés, le G13, auteur de cette loi, si la classe politique s'est mis d'accord sur les options à lever pour la transparence du processus, il est possible d'avoir des élections crédibles, transparente et apaisée, mais cela nécessite une volonté politique exprimée par toutes les parties prenantes dans le processus. Michel Kifindangoy nous parle ici des grandes réformes attendues.
En croire le député national Jacques Joly, co-auteur de la proposition de loi électorale, la tenue des élections crédibles et transparentes est gage de la stabilité politique en RDC.
S'il y a contestation, il y a fragilisation de la légitimité et ça va ouvrir la voie à la corruption. Bonnes élections donnent de bons dirigeants.
Il recommande donc que la loi électorale soit rapidement examinée et que les options politiques soient levées, notamment en ce qui concerne le mode du scrutin, l'identification des électeurs, la transparence dans la publication des résultats par bureau de vote.
La chaîne des résultats doit être transparente. On doit savoir la vérité des urnes. Une élection doit être observée aussi bien par nationaux et internationaux.
Toutes ces réformes ne peuvent être possibles que par une volonté politique de toutes les parties prenantes à tenir un processus crédible, ajoute Jacques Joly.
On ne peut pas avoir une démocratie sans démocrate. De bonnes élections, c'est un impératif de bonne gestion tous les conflits qu'il y a en Afrique. C'est très souvent né de mauvaises organisations des élections.
En dehors du vote de la loi électorale, la CENI devrait mettre en place un cadre de concertation pour la tenue d'un processus apaisé, a-t-il renchéri.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. Au moins 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique de leur école, fête des classes en Payotte. Cela s'est passé hier à Maradi, dans le sud du Niger. Le dernier bilan provisoire fait également état des blessés graves. La région de Maradi, proche de la frontière avec le Nigeria, était déjà endeuillée par la mort dimanche de 18 orpailleurs clandestins dans l'effondrement d'une mine. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux sont insoutenables. Des appels sont lancés aux parents pour venir tenter d'identifier leurs enfants. Pour l'instant, l'origine du feu demeure inconnue.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Alphonse Ntumbaluaba, ancien secrétaire général de la CIRGL et modérateur des pourparlers ayant abouti aux déclarations de Nairobi en 2013, déclarations qui ont consacré le retrait du M23 du territoire congolais. Il s'entretient avec Billy Vandutumba sur cette nouvelle incursion du M23 dans le Rutshuru au Nord Kivu.
Professeur Ntumbaluaba, bonjour.
Bonjour, Billy Van.
Vous avez joué un grand rôle dans le mécanisme de pacification de la partie est de la RDC consécutivement à la présence du M23 dans le cadre de la CIRGL. Comment réagissez-vous à cette nouvelle incursion du M23 sur le territoire congolais?
Moi, je suis très surpris parce que j'ai joué le rôle de modérateur en tant que secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour aboutir à la signature des déclarations de Nairobi de décembre 2013 qui proclamait le cessez-le-feu, puis au dégagement. J'ai assisté même au départ de troupes du 1-23 de Goma. Ensuite, ils se sont installés à Kampala, dans un camp pas très loin de Kampala, et également à Kigali. Donc, nous nous sommes retrouvés avec l'aile Makenga, Bertrand Bisimwa installé à Kampala, et l'aile de Jean-Baptiste Runiga. Nous avons continué à négocier pour leur retour, mais Kigali et Kampala nous disaient qu'ils ne permettraient jamais à ces gens-là de rentrer au Congo, qu'ils étaient totalement désarmés. Et maintenant, lorsque, depuis hier, on me signale que de nouveau le M23 attaque, que Makenga est là, je me dis alors, qui les a lâchés? Qui a permis qu'ils reviennent au Congo armés? Qui les a armés? Je dis non. Les pays voisins nous doivent des explications et également il y a à Goma des mécanismes conjoints de vérification élargie qui comprend tous les experts des pays membres de la CIRGL, de 12 pays membres. Donc d'où ils viennent?
Pourtant, on a vu le président Félix Tshisekedi rencontrer ses homologues des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, par rapport à la sécurisation des frontières des pays de la sous-région. Comment on peut expliquer cette multitude d'incursions et d'intentions d'investir le territoire congolais avec un important armement en plus? S'agit-il des accords de façade entre les trois chefs d'État?
D'où vient cet armement? Moi, je crois que c'est la montée en puissance des FARDC qui inquiète certains intérêts dans la région, et je crois que ils doivent jouer franc jeu. Notre président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pratique la politique de bon voisinage, et nous devons attendre la bonne foi aussi de la part de nos voisins. Mais il ne faut jamais oublier qu'il faut une bonne diplomatie, et qu'à côté d'une bonne diplomatie, il faut une bonne armée. Et je pense qu'il y en a qui veulent empêcher ou nuire la montée en puissance des FARDC qui semblent inquiéter certains milieux parce que cela signifie la restauration de l'autorité de l'État et finalement aussi la fin des pratiques massifs, transnationaux, transrégionaux, qui impliquent des milieux internationaux, qui impliquent des milieux régionaux, qui impliquent également certains acteurs nationaux. L'état des sièges commence à toucher à leurs intérêts vitaux. C'est cette réaction-là qui veut empêcher qu'on puisse aller plus loin.
Professeur Ntumbaluaba, est-ce que vous êtes en train de dire que les homologues du président Félix Tshisekedi ne jouent pas franc jeu et ne respectent pas leur engagement? engagements?
Je ne pourrais pas aller jusque-là, mais je voudrais dire qu'il existe un accord de défense mutuelle et de non-agression entre les pays de la région des Grands Lacs et qu'il serait bon que tout le monde respecte les éléments de cet accord-là. Même au niveau de l'Union africaine, il existe les mêmes principes et les mêmes règles. Donc, nous voulons que tout le monde joue ce jeu-là. Et donc, il ne faut pas se serrer là-bas avec un poignard derrière le dos.
Que devrait être, sur le plan diplomatique, la réaction des Kinshasa, indépendamment bien sûr de la contre-offensive de l'armée congolaise?
Il y a le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui doit contrôler cette situation. Mais nous avons à Goma le mécanisme conjoint de vérification élargi, qui avait d'ailleurs supervisé le retrait du M23. Plus que tout, je pense qu'il faut tout simplement une réponse musclée, arrêter toute progression. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a plus d'aventure possible en RDC. Ils doivent retourner d'où ils sont venus, même par la force, et après nous allons négocier.
Que pourrait être l'attitude du chef de l'État congolais?
Une attitude ferme du point de vue militaire, une attitude très ferme, et je crois qu'il a déjà donné toutes les instructions nécessaires et que cette aventure n'ira pas très loin.
Professeur Ntouba Luaba, merci.
Voilà, c'était là notre invité, l'ancien secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGEL. Ce journal est complètement terminé et supervisé par Pele Kipela Mondo. À la technique, Alain Goy, merci de rester branché sur la fréquence de la paix.